Chapitre 26. Cette fois, il n'y a pas de long préliminaire. Agrippa accorde immédiatement la permission à Paul de parler pour lui-même. Paul peut alors se dispenser de tous les détails d'une défense et en venir directement au message que Dieu lui avait confié, après avoir reconnu qu'Agrippa était expert en la matière et l'avoir prié de l'écouter avec patience. Il commence par établir qu'il avait été élevé selon la forme la plus stricte du judaïsme parmi les pharisiens. Ce dont il était accusé, maintenant, était en relation avec l'espérance qui avait soutenu Israël depuis les jours où Dieu avait donné sa promesse. Les Juifs gardaient toujours cette espérance, mais Paul soutenait qu'elle avait eu un accomplissement en Christ, et en particulier dans sa résurrection. Ainsi, dès le début de son apologie, il donne la première place à la résurrection, celle-ci étant le principal objet du débat. Mais la résurrection dépasse les pensées des hommes, qu'ils soient juifs ou païens, d'où sa question « Pourquoi, parmi vous, juge-t-on incroyable que Dieu ressuscite des morts ?» Ce serait tout à fait incroyable s'il s'agissait simplement des hommes. Introduisez Dieu, le Dieu vivant et vrai, et le contraire est incroyable. Dans ce troisième récit de sa conversion, nous voyons Paul mettre l'accent principalement sur l'opposition obstinée et féroce qu'il avait caractérisée au début. Il était certes un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux, comme il le dit à Timothée. Il a été jusqu'à être transporté de fureur contre les disciples et il les persécutait même jusque dans les villes étrangères. Il agissait ainsi car il était persuadé qu'il fallait faire beaucoup contre le nom de Jésus le Nazaréen. C'est en plein midi, alors que le soleil brille de son éclat le plus vif, qu'il fut arrêté sur la route de Damas par une lumière plus éclatante que le soleil et qu'il entendit la voix du Seigneur. La lumière non créée éclipse la lumière créée. Plusieurs détails intéressants qui n'ont pas été mentionnés dans les récits précédents sont relevés ici. La lumière du ciel fait tomber à terre dans la poussière non pas seulement Paul, mais tout le groupe. Et puis la voix s'exprime en langue hébraïque. C'est remarquable, car nous avons vu auparavant que les compagnons de Paul, bien qu'ils aient entendu la voix, ne l'avaient pas comprise. C'était dans leur propre langue, et pourtant, ils ne comprennent pas. Ils ont été touchés physiquement, mais seul Paul l'a été spirituellement. L'élément essentiel d'une conversion réside non pas dans de grandes visions ou des sons mystérieux, mais dans l'opération vivifiante du Saint-Esprit. Jésus n'a été manifesté qu'à Paul, et cela d'une manière telle qu'il le reconnaît comme son Seigneur. Une fois qu'il eut confessé Jésus comme son Seigneur, il lui fut clairement dit ce qu'il devait faire pour son salut personnel. Les récits précédents nous l'ont appris. Ici seulement, nous voyons qu'à ce même moment, le Seigneur lui avait dit tout aussi clairement qu'il l'avait choisi pour faire de lui le serviteur de sa volonté d'une manière très particulière. Il devait être témoin auprès de tous de ce qui venait de lui être révélé et d'autres choses qui lui seraient communiquées par le Seigneur. Nous ne trouvons qu'ici le mandat que le Seigneur lui a confié dès le début et les termes de ce mandat. Ils sont très remarquables et expliquent pleinement la carrière extraordinaire qui a été placé devant nous dans les chapitres précédents. Selon le propos du Seigneur, il devait être délivré ou retiré du milieu du peuple et des nations, c'est-à-dire qu'il devait être séparé à la fois de son propre peuple, les Juifs, et des gentils, de manière à avoir une place distincte de l'un et des autres. On a souvent dit que les paroles du Seigneur « Je suis Jésus que tu persécutes » étaient la première mention des saints comme étant son corps. On nous permettra peut-être d'ajouter que ces paroles sont la première allusion à la place distincte de l'Église, appelée tant d'entre les Juifs que d'entre les gentils. Paul a commencé par être mis lui-même dans la position où seraient amenés tous ceux qui recevraient l'Évangile qu'il était appelé à annoncer. Mais la fin du verset 17 montre que c'est vers les nations qu'il était spécialement envoyé. Comme nous l'avons relevé plus haut, il a été en bénédiction à de nombreux Juifs, tant qu'il a rempli son mandat dans le monde des nations. Ce n'est que quand il s'est détourné de cette mission pour s'adresser à ses frères juifs en particulier qu'il a échoué. Quel avertissement pour nous! Notre maître doit avoir la première place et notre sagesse doit se ranger à son plan pour notre vie et notre service. C'est vers les gentils qu'il devait aller pour ouvrir leurs yeux. C'était un tournant dans les voies de Dieu, car jusque-là, ils avaient été laissés à eux-mêmes. Ils avaient été dans les ténèbres et l'ignorance, mais maintenant leurs yeux devaient être ouverts. S'ils avaient effectivement les yeux ouverts par les travaux de Paul, ils se tourneraient des ténèbres et du pouvoir de Satan à la lumière et à Dieu. C'est ce que nous entendons par conversion. Elle doit nécessairement inclure la conviction de péché, car personne ne peut venir dans la lumière de Dieu sans que cette conviction soit produite en lui. La réception du pardon résulte alors de ce tournant. Nous pouvons nous réjouir dans le pardon de Dieu et plus encore. Nous recevons un héritage que nous partageons avec tous ceux qui sont mis à part pour Dieu. Le pardon est la bénédiction négative de l'Évangile, si nous pouvons nous exprimer ainsi, et l'héritage, la bénédiction positive. Le pardon est une perte plutôt qu'un gain, la perte de nos péchés, de la satisfaction en eux, mais aussi du châtiment qu'ils encourent. L'héritage, c'est ce que nous gagnons. Et tout cela est par la foi en moi. Nous voyons ici comment on parvient à la bénédiction, non pas par des œuvres, mais par la foi. Et Christ est l'objet de cette foi. La valeur n'est pas dans la foi, mais dans l'objet en qui la foi repose. Ainsi, dès le moment même de sa conversion, la marche et le ministère à venir de Paul avaient été tracés pour lui, et une révélation du Seigneur lui avait donné le message qu'il devait annoncer. Ainsi, nous avons dans le verset 18 un résumé complet des bénédictions que l'Évangile apporte à celui qui le reçoit par la foi. Les yeux de son cœur et de son esprit sont ouverts à la vérité. Il est amené des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ses péchés sont pardonnés et il le sait. Il a une part à l'héritage commun à ceux qui, comme lui, sont mis à part pour Dieu. Après avoir reçu ses instructions, Paul avait rempli fidèlement son mandat. Commençant par l'endroit où il se trouvait, puis sortant vers les nations, partout il avait montré aux hommes comment il fallait répondre à l'Évangile. Il devait se repentir, il devait se tourner vers Dieu, il devait faire des œuvres convenables à la repentance qu'il professait. La repentance implique cette introduction dans la lumière qui nous rend capables de voir et de juger notre état de péché, et ensuite de le confesser devant Dieu. Or, plus nous sommes conscients de notre péché, moins nous avons confiance en nous-mêmes, et moins nous avons confiance en nous-mêmes, plus nous apprenons à nous confier en Dieu. Par conséquent, pour nous tourner vers Dieu, il faut d'abord nous détourner de nous-mêmes. Tout ceci est un exercice profond d'esprit et de cœur, de nature plus ou moins secrète, mais s'il est réel, il ne tardera pas à produire les actes et les œuvres qui conviennent. Si ces œuvres convenables à la repentance font défaut, nous pouvons être certains que la repentance professée n'est pas réelle. Paul insiste sur ces trois points. Il savait évidemment qu'ils ne sont pas seulement la voie tracée par Dieu pour recevoir les bénédictions de l'Évangile, mais qu'ils sont produits par l'Évangile quand il est reçu par la foi. Or, c'est précisément cela qui avait suscité une telle animosité de la part des Juifs, car si c'était là le moyen d'entrer dans la faveur de Dieu, les gentils y avaient accès aussi bien que les Juifs. Mais il montre très clairement à Agrippa que la base de ce qu'il avait prêché était ce qui avait été annoncé par Moïse et les prophètes. Il proclamait les souffrances de Christ, sa résurrection, et le fait que, comme ressuscité, il apporterait la lumière de Dieu à toute l'humanité, non seulement aux Juifs, mais aussi aux gentils. Avec quelle clarté le chapitre 49 d'Ésaïe n'établit-il pas ce dernier point, tout comme le chapitre 53 prédit la mort et la résurrection de Christ. Puis, au verset 23, un témoignage éclatant est rendu devant Agrippa, Festus et tous ceux qui sont présents, aux faits glorieux qui sont à la base de l'Évangile. Nous pouvons dire en effet que primordialement, la prédication de l'Évangile est la déclaration de ces faits. Donnons-leur donc la première place. Lorsque nous annonçons l'Évangile, c'est aussi important aujourd'hui qu'au jour de Paul. Ensuite, comme nous l'avons vu, le verset 18 indique les bénédictions que l'Évangile apporte, et le verset 20 la manière selon laquelle les bénédictions de l'Évangile sont reçues. Pour le Romain, un païen, la notion de la résurrection était tout simplement incroyable. Paul, d'ailleurs, en était conscient, comme le montre le début de son discours. Aussi, la mention de Christ ressuscité d'entre les morts arrache-t-elle une puissante exclamation à Festus. Combien souvent, au cours des siècles, n'a-t-on pas accusé les chrétiens de folie? Nous trouvons ici pour la première fois cette insulte dans la bouche d'un homme du monde. Et pourtant, ce n'était pas une vulgaire injure, car Festus était un Romain éduqué. Il attribue la folie de Paul à un excès d'études et de savoir, mais il ne le tient pas moins pour fou. La réponse de Paul est émouvante par sa simplicité et sa dignité. Il s'adresse à Festus de la manière qui convient à son rang élevé, puis affirme qu'au contraire, il a prononcé des paroles de vérité et de sens rassis. Pour Festus, ce n'était que les élucubrations d'un esprit dérangé, car les dieux qu'il vénérait n'avaient pas de puissance au-delà de la tombe. L'homme faible peut tuer et faire descendre dans le sépulcre, c'est chose facile. Ce n'est que du Dieu vivant qu'il peut être dit « L'Éternel fait mourir et fait vivre, il fait descendre au Shéol et en fait monter. » 1 Samuel 2, verset 6. Efforçons-nous tous d'annoncer l'Évangile de telle manière que nos auditeurs puissent reconnaître que nous annonçons des paroles de sobre vérité. Après avoir répondu à Festus, Paul adresse un appel à Agrippa, qui prétendait croire aux écrits prophétiques et devait donc savoir qu'il prédisait effectivement ce que lui, Paul, annonçait. L'appel atteint son but. Il est à craindre, hélas, que la réponse d'Agrippa n'ait pas la confession qu'il était presque convaincu de la vérité de l'Évangile, mais plutôt une tentative de rejeter les faits de l'appel sous le couvert d'une plaisanterie. En effet, il dit « Tu me persuaderas bientôt d'être chrétien ». Ces paroles montrent clairement que le terme « chrétien », attribué pour la première fois à Antioche, était maintenant employé couramment. Il décrivait d'une façon très précise les disciples. L'élévation morale qui se dégage de la réplique de Paul est très remarquable. Un pauvre prisonnier, au milieu de toute la pompe et la magnificence d'une cour, souhaite à ses juges de devenir de toute manière tel qu'il est, hormis ses liens. Les anges qui contemplaient cette scène ont vu un héritier de la gloire éternelle et céleste comparaître devant les misérables de la terre, faisant parade pour un bref moment de toutes leurs prétentions. Paul savait cela, comme il savait aussi que pour personne, il n'y avait rien de mieux que d'être réellement et complètement tel qu'il était. Ces paroles mettent un point final à l'audience. Paul a eu le dernier mot, et nous pouvons nous réjouir en constatant comment, rempli de l'Esprit Saint, il se trouve au plein niveau du grand appel qui lui avait été adressé, l'appel qui nous est adressé à nous aussi. Une fois encore, son innocence est proclamée par l'autorité compétente. S'il n'en avait pas appelé à César, il aurait été libre.